Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons entreprendre une méditation ce matin, une étude plutôt, sur le thème de la conscience, conscience des hommes en général, et la conscience des chrétiens. Et nous avons en effet un titre à donner à notre réflexion, c'est la conscience avisée, la conscience éclairée, si on peut le dire de cette manière. Je prends deux textes dans le Nouveau Testament, et nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui nous entretient finalement, qui pose les principes de la conscience. Alors, dans Romains, chapitre 2, au verset 14 et le suivant, il nous est dit ceci, « Concernant le monde païen, le monde incrédule, le monde qui ne connaît pas Dieu, il nous est simplement rappelé, il montre que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant en se défendant tour à tour. » Et puis il y a un deuxième texte que nous pouvons introduire, c'est dans Romains chapitre 9 et verset 1er, et Paul affirme « Je dis la vérité, ma conscience, m'en rendant témoignage par le Saint-Esprit. » Alors voilà les textes de référence, et nous voulons là aller un petit peu plus loin, et donner quelques éléments pour notre réflexion, pour nourrir notre vie spirituelle et notre foi. Un mot-clé revient dans la présente étude, c'est tout simplement précédé de la conscience, ma conscience, notre conscience, et en ce qui concerne les autres, leur conscience, y est associée à une fonction, c'est-à-dire le témoignage. Nous l'avons lu sous la plume de l'apôtre Paul, faisant office de témoin, de spectateur parce qu'il voit, d'auditeur parce qu'il entend, qui dépose en faveur ou en défaveur de ceci ou de cela. Il y a ici la notion d'intimité, de témoin intérieur et personnel, peut-être même le témoin secret, de cette conscience dont Dieu nous a dotés, parce que nous sommes, sa création, est citée, si vous le remarquez, 30 fois dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, ce mot est présent par, tout simplement, un autre mot qui est le mot « cœur ». En français, il s'exprime par, tout simplement, la voix, fort ou sens intérieur, on l'appelle l'âme. Le sens moral, ainsi la conscience produit des actes et qui nous amène à des examens de conscience. Interroger sa conscience, cas de conscience, être consciencieux, par acquis de conscience. On pourrait naturellement le fixer sur la moralité et les mœurs. Scrupule de conscience, remords, ressentir, etc., etc. Le mot conscience vient de ce thème latin consentia, préfixe con, c'est-à-dire avec, ça veut dire avec, écrire, c'est-à-dire connaître, savoir, voir, être d'accord ou en désaccord, ça dépend naturellement des situations. La conscience, c'est l'expression de ce que nous nous représentons en bien ou en mal, impliquant notre responsabilité et ses conséquences, tant en parole qu'en comportement, dans nos réactions d'appréciation suivies de jugement, qu'ils soient positifs ou négatifs vis-à-vis de Dieu d'abord, et puis également des hommes, car Dieu a inscrit des principes moraux en nous, que l'on appelle naturellement communément des règles, des lois et des repères. C'est inné à la nature humaine. Sorte de référence, alors dans les codes sociaux, dans les codes politiques, dans les codes religieux en particulier, parce que c'est ce qui nous intéresse naturellement, qui permet d'identifier les limites et ses dépassements. Dans Romains Eh bien, chapitre 2, comme nous l'avons lu, il nous est dit que la conscience des hommes s'accusant et se défendant tour à tour. Ce cadre implique le conflit avec soi-même, ce qui produit la culpabilité. Alors, comment ça marche ? Avoir une bonne ou mauvaise conscience, c'est une interrogation. La connaissance que j'ai en moi, le bien, le mal. Ce quelque chose, et je précise finalement eh bien, cette expression, ce quelque chose s'établit, se définit et me sert de repère, car parce que Dieu m'en avertit à l'intérieur de moi-même, soit par une loi inscrite dans mon cœur naturel, qui vient au fond de mon être intérieur, ou une loi écrite. C'est ce qui nous est dit finalement dans Romains. Chapitre 7, vous pourrez le relire vous-même, où il est question, eh bien, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Et c'est toujours le principe de la loi, et qui est véritablement, eh bien, là, manifesté, eh bien, par une supériorité de la foi et de la grâce de Dieu, où la foi remplace la loi qui nous condamne. Alors, nous voyons que tout cela se nous sert de repère, et nous voyons que l'essentiel de la bonne application de la conscience s'établit sur la norme de la parole de Dieu que j'ai appris à découvrir, parce que la Bible me le dit, parce que j'ai appris à le connaître, à m'en imprégner, et la loi de Dieu est donc sainte, et le commandement est juste et bon et favorable au bonheur, à l'épanouissement, à la communion avec le Créateur. C'est ce que vit naturellement eh bien, le chrétien qui a fait une expérience de rencontre avec Dieu par Jésus-Christ. Quelque situation ou état de conscience commence toujours par le respect de soi, d'abord, moi-même, hein, je me respecte parce que je veille à avoir une bonne conscience, et puis également les autres, et en voici le cadre où l'amour, et ça c'est quelque chose de fondamental et d'important dans le message évangélique, où l'amour est le dénominateur, et c'est pourquoi la Bible nous dit « accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions ». Nous qui sommes forts, et c'est la suite de ce que nous dit Paul, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est une question de conscience. Consoler ceux qui sont abattus, supporter, user de patience envers tous. Et si vous êtes d'un autre avis, et ça c'est important parce que c'est fondamental dans notre comportement chrétien, dans notre comportement de vie spirituelle, et si nous sommes en effet d'un autre avis, eh bien là, nous voyons que envers tous, et si nous sommes d'un autre avis par motif de conscience, Dieu nous éclairera, il vous éclairera. Prenons garde de ne jamais forcer la conscience d'autrui, de forcer finalement la main de Dieu quelque part, parce que c'est une illusion dans notre nature, dans notre nature humaine, de forcer la main de Dieu par exemple, de détourner sa parole et le Saint-Esprit, parce que Dieu, sa parole, le Saint-Esprit sont les seules habilités à pouvoir finalement eh bien, avoir une bonne conscience, surtout une bonne conduite avec les autres, mais il faut pourtant faire la différence de conviction et d'opinion. J'aimerais poursuivre brièvement. Voici six types et natures différentes de la conscience des hommes. D'abord, la conscience dominante. Qu'est-ce que c'est ? C'est dont les causes par excès de certitude ou d'autorité, où nous prenons position sur la conscience des autres. Parce que, voilà, je suis convaincu, j'ai des assurances, des certitudes, mais attention, parce que nous avons besoin de ne pas être excessif, de ne pas être plus royaliste comme on le dit, plus royaliste que le roi. Cause par excès de certitude ou d'autorité, alors prudence, car ce que je crois pouvoir faire moi-même, et je peux faire beaucoup de choses, j'ai la liberté de les faire probablement, mais une chose, je crois pouvoir faire moi-même, ne pas l'imposer aux autres, que ce soit en effet dans tous les domaines de la vie. On a parlé tout à l'heure de politique, on a parlé de religion, on a parlé enfin de toutes sortes de choses, même dans la famille, quelque part, de l'imposer aux autres, ça s'appelle tout simplement du perfectionnisme et du purisme, hein, tout simplement, ou ce qui a donné finalement eh bien, cette excroissance arbitraire de puritanisme. Ensuite, la conscience dominante, nous venons d'en dire deux mots, la mauvaise conscience. Qu'est-ce que la mauvaise conscience? Et nous savons qu'il nous est donné également dans l'Évangile tout simplement cette parole « Approchons-nous ou approchez-vous d'un cœur sincère, le cœur purifié. » Et ça, cette mauvaise conscience se caractérise par la connaissance du ou des péchés, lequel ou lesquels n'ont pas été confessés ou avoués. Nous gardons à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, un poison. Nous gardons à l'intérieur quelque chose qui est profond, mauvais, qui est destructeur, parce qu'il y a une absence de confession des péchés à Dieu, et puis nous ne voulons pas les avouer aussi devant les hommes. C'est un état de mal, de mal-être, nous pouvons le dire de cette manière. Nous avons un cas dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de David, le roi David, un grand roi, un homme de foi, mais qui un jour a fait une chute caractérisée, c'est-à-dire il a pris la femme eh bien, d'un autre, qu'il a fait tuer, d'ailleurs il a fait tuer le mari, et puis il a gardé cela au fond de son cœur, et il est resté pendant des années, ou des mois en tous les cas, hein, plus d'un an me semble-t-il, eh bien, avec une mauvaise conscience qui qui n'a pas échappé à son peuple. Et nous voyons qu'il avait perdu sa joie, il avait perdu son entrain, il avait perdu finalement ce qu'il était lui-même. Et c'est le problème David et son adultère avec Bathsheba. Et il était perclus de tourments. Voilà la mauvaise conscience, la conscience dominante, la mauvaise conscience. Et maintenant nous en arrivons à une autre étape, c'est la conscience insensible. C'est-à-dire que finalement elle n'a pas de réaction. Ils ont leurs péchés, ils ont leurs pensées, nous dit l'apôtre, ils ont leurs pensées obscurcies, c'est-à-dire qu'il y a un voile dans leur entendement profond. Et ils se sont, en effet, ils ont fait des forteresses dans leur fort intérieur. Et ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance ou de la volonté d'ignorer eh bien, les réalités et parfois, eh bien, en effet, ce qu'ils ont commis et qu'ils ne veulent pas, naturellement, eh bien, voir en face. Et cela a produit, comme le dit cette parole, à cause de leur ignorance, l'endurcissement de leur cœur. Ils sont devenus avec non plus un cœur de chair, mais un cœur de pierre. Et ils en ont perdu le sens moral et les valeurs élémentaires. Conscience cautérisée, c'est-à-dire que finalement il y a là quelque chose qui les renferme. Cette conscience est cautérisée par le péché, devenue un engourdissement, une sorte d'anesthésie, c'était le cas de David que nous avons cité tout à l'heure, et le mal devient une nature d'être, une nature de penser, une nature de se comporter. Le mal devient une nature d'être, de vivre, et une conscience qui est devenue muette, elle ne peut plus s'expérier, on pourrait dire peut-être, elle est morte, elle est devenue inerte. Donc, conscience dominante, mauvaise conscience, conscience insensible, conscience souillée. Alors c'est quelque chose qui est véritablement, qui a perdu sa pureté. Et un texte dans la Bible nous dit ceci et affirme « Tout est pur pour ceux qui sont purs ». Mais rien n'est pur pour les incrédules et les rebelles, ceux qui se révoltent contre la vérité, contre le bien, contre Dieu, contre finalement le bon sens. Incrédules et rebelles au bon sens commun. Leur intelligence et leurs pensées sont souillées. Perte de la capacité de distinguer le bien, le mal. Ils ne savent plus du tout où ils en sont rendus. Mélange et amalgame en tout genre. Leur jugement est faussé, leur jugement est altéré et ne peut être l'arbitre de bon choix, l'arbitre des choix et de la vérité. Ensuite, nous pouvons parler de la conscience flétrie dans 1 Timothée chapitre 4, où il est question de l'hypocrisie de gens et particulièrement de gens religieux. Oui, la conscience flétrie, question de l'hypocrisie de faux docteurs, de gens qui apparaissent, qui ont, en effet, peut-être le langage, mais qui n'ont pas la vérité au fond de leur cœur. Ceux qui enseignent les autres, et qui quelque part, en raison de leur mission, en raison de leur auto-mission, nous pourrions dire, en raison de leur fonction, en raison de ce qu'ils, caressent, ils portent la marque de leur flétrissure dans leur propre conscience. On pourrait dire que ce sont des consciences qui sont fanées. Des consciences comme les fleurs qui sont passées, des consciences qui sont défraîchies, et le mot conscience n'est plus un état de rendre une appréciation juste, exacte, vraie. Vous pouvez faire une remarque au passage. À l'origine de cette grave détérioration, il y a les déviations de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus dénoncera chez les pharisiens, hein, qui avaient une conscience flétrie. Tous ces gens qui pensent être des maîtres, hein, qui pensent être au-dessus des autres par leur connaissance des choses, hein, mais qui quelque part ne mettent pas en pratique. Hein. Il y a deux visages et deux langages. À l'origine de cette grave détérioration, avons-nous dit, les déviations de la parole de Dieu, les fausses doctrines et surtout les interprétations fallacieuses qu'ils en donnent. Eh bien là, de la loi de Dieu, de Dieu lui-même, de ce qui, quelque part, est la vérité, et il détourne les choses. Et puis, je terminerai tout simplement, parce que nous aurons un autre sujet qui viendra un peu plus tard dans toujours sur la question de la conscience, c'est la bonne conscience. Dans Actes chapitre 23, l'Écriture nous dit ceci, parce que j'ai cité quand même pas mal de notions de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu, de la Bible. C'est en toute bonne conscience, et Paul l'affirme, il parle de lui-même, que je me suis conduit. Et il parle finalement de son ministère pastoral, d'apôtre, d'enseignant également de la parole de Dieu. Il dira, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit avec vous. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une foi sincère, d'une conscience intègre. Et il faut dire aussi, et nous avons à véritablement rester tout à fait conscients, d'en rester conscients, nous restons des pécheurs par nature. Hein, c'est pas parce que nous avons confessé Jésus-Christ que nous nous sommes fait baptiser adultes, que quelque part nous appartenons à une communauté spirituelle, une église ou des choses comme ça, mais nous restons des pécheurs, nous restons dans la faiblesse de notre vie naturelle. Cependant, une bonne conscience signifie l'obéissance. Voilà. C'est-à-dire que nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que obéir c'est difficile. Ça, c'est vrai, hein, à cause des tentations, à cause des séductions, à cause également d'un ennemi que nous appelons l'adversaire, le diable, et les puissances mauvaises qui agissent pour nous détourner. Donc, ça signifie l'obéissance prompte à Dieu, parce qu'il est, et je le souligne, parce qu'il est la référence suprême. Dieu est celui qui est parfait. Il est souverain sur toute chose, et c'est lui que nous devons regarder, c'est à lui que nous devons, vers lequel nous pouvons trouver l'inspiration. Et si nous avons un modèle, c'est véritablement la personne de Jésus qui a été parfait en tout, pour tout, et il est l'exact reflet de ce que nous devons être dans son imitation, et l'exact reflet d'une âme et d'un esprit en bonne santé morale et spirituelle. Je termine tout simplement par une exhortation qui est donnée par un des apôtres dans la fin du Nouveau Testament. Il nous est dit, et il s'adresse à un ami, c'est l'apôtre qui dit ça, « Bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme et de ta conscience. » Nous savons que nous sommes exhortés ce matin à prendre ces principes qui nous expliquent ce qu'est le fonctionnement, ce qu'est la conscience, ce que Dieu attend de nous parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a donné ce que le reste de la création, que ce soit le minéral, que ce soit l'animal, que ce soit en effet le monde végétal, il y a quelque chose qui caractérise l'homme, c'est sa conscience. Il lui a donné pour que cette conscience, et nous le reverrons bientôt, la conscience est à la fois, en effet, une boussole. La conscience est aussi un thermomètre. Nous le verrons, nous le penserons, en effet, à l'étude, et également un thermostat. Alors voilà, donc, je rappelle cette belle parole. Dieu est la référence suprême en tout, pour tout, et l'exact reflet d'une âme et d'un esprit en bonne santé morale et spirituelle. Alors, je vous souhaite que vous prospériez à tous égards, nous dit l'apôtre, et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de vos âmes et de votre conscience. Que Dieu nous bénisse ce matin, et nous reverrons d'ici et très prochainement pour le second volet et concernant eh bien, les hommes et leur conscience. Que Dieu nous donne sa grâce et je vous remercie pour votre attention et ce que vous ferez de cette parole, parce que c'est important de savoir que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la foi et puis à eh bien, notre développement, notre épanouissement dans cette dimension qui est celle de nos relations avec Dieu et avec les autres. Merci et à bientôt.